d'analyser ici. Par ailleurs, il faut rappeler que les femmes, fondamentalement, ne s'intéressent pas à la politique en tant qu'elle est l'expression, à un moment historique donné, de rapports sociaux que désigne un type de régime. Il n'empêche que, considérons qu'il vit à une époque où la connaissance progresse vers la perfection, il estime qu'aux découvertes et améliorations dans le monde naturel correspond la réforme dans celui de la morale. La méthodologie de cette réforme consiste à tirer les conséquences de cet axiome fondamental: le plus grand bonheur au plus grand nombre est la mesure du juste et du faux. Ce principe d'utilité, repris de David Hume, mais retravaillé par la suite, et la loi identifiée à la raison, constituent les piliers sur lesquels Jeremy Bentham construit son système, dont A Fragment on Government, qui est une critique féroce de l'introduction aux commentaires sur les lois d'Angleterre de Blackstone, est la première pierre. C'est en effet un système philosophique que construit Bentham. Et même lorsqu'il élabore son projet de prison modèle, le Panopticon, s'opposant, je cite, à l'expédient de la déportation administrative en Australie, qui avait été inaugurée par le Parlement britannique en 1784, il entend mettre en œuvre concrètement le principe d'utilité. En partant d'une simple idée architecturale, le Panopticon permet de réaliser l'identification artificielle des intérêts, principe développé par Hibiscus, ce qui signifiait, dans le cas du système pénitentiaire, que la surveillance du prisonnier devait être portée au plus haut point de perfection, tout en s'exerçant dans l'intérêt de ces derniers. La réalisation de ce programme, en dehors de l'édification du bâtiment conçu pour permettre une surveillance généralisée, implique aussi un choix gestionnaire, celui de l'administration par contrat. Cette technique, de ce que l'on appelle aujourd'hui contracting out pour gérer les prisons, était préconisée en réalité par la loi de 1778, et par ailleurs le recours à ce type de gestion épargnant les deniers publics faisait partie des propositions de réforme économique que Edmund Burke avait déjà formulées dans un célèbre discours à la Chambre des communes. Autrement dit, Bentham n'invente rien en l'occurrence. Il intègre cette technique en la raffinant dans la mesure où elle constitue le moyen le plus rationnel pour satisfaire les intérêts des individus et ceux de la collectivité à laquelle est épargnée toute dépense. En portant notre regard sur les pratiques actuelles des gouvernements, on constate par exemple que l'externalisation de certains services considérés comme publics est très courante, ce qui ne signifie pas que l'utilité, au sens où Bentham l'entendait, soit au principe de l'action. Les nombreuses mesures prises en France depuis plusieurs années, et en particulier celles mettant en œuvre la modernisation des politiques publiques, qui fait suite à leur révision générale, ne sont pas souvent évoquées dans une certaine mesure les conceptions de Bentham. Ce qui domine en effet dans les réformes en cours, c'est la référence au couple sanction-récompense, qui correspond théoriquement au ratio entre les peines et les plaisirs. Ce principe utilitaire son application dans la bureaucratie, dont la description par Bentham préfigure, il faut le rappeler, les caractéristiques de l'idéal type weberien. La mise en œuvre de ce principe, dit-il, pour ne pas être absolument nouvelle en France, fait partie du credo managérial qui inspire depuis une trentaine d'années la plupart des réformes administratives, grosso modo, à travers le monde. Nous allons d'abord voir ce à quoi renvoie ce titre d'un ouvrage de Bentham, d'un ouvrage qui est en fait un recueil d'opuscules, Official Aptitude Maximized, Official Expense Minimized. Titre évocateur, en effet, mais qui ne doit pas faire illusion, ou plus exactement, qui pour être compris doit être replacé dans son contexte. Il convient tout d'abord de rappeler que toute l'œuvre de Bentham a pour objectif de montrer que seul un système juridique unifié et légiféré est l'expression de la rationalité et donc du principe d'utilité. Contrairement à la common law, un système non codifié que les juristes fabriquent entre eux et qui n'est porté à la connaissance du public, qui n'est pas porté à la connaissance du public et qui ne permet pas de prévoir la prévisibilité. Ne permet pas de prévoir comment seront jugés les litiges. Bentham critique violemment la profession juridique de son temps, bien sûr, ses caractéristiques tribales, ses pratiques obscures et le fait qu'elle utilise le droit dans son intérêt propre, sans souci de la collectivité. Mais si les juristes font le droit en lieu et place du législateur, cette usurpation est facilitée, selon lui, par le fait que l'aristocratie a abdiqué son pouvoir législatif pour occuper des emplois élevés et en tirer des bénéfices qui sont loin d'être purement symboliques. L'aristocratie constitue l'autre cible de Bentham. Et son libel, donc Official Aptitude Maximize, Official Expense Minimize, son libel vise précisément ce groupe social qui, bien que dénué de compétences professionnelles pour le service public, tient ses positions officielles du favoritisme et n'en vu que son enrichissement personnel. Autrement dit, tout comme les juristes, l'aristocratie ne travaille pas pour accroître le bonheur public. Ce point est très important. Bentham, à la fin des années 1810, commence à s'intéresser à la réforme politique et il entreprend, en 1820, la rédaction du Code constitutionnel dans lequel il décrit les institutions administratives et judiciaires et leur mode d'organisation, dont le rôle est essentiel, puisque ce sont elles qui donnent leur plein effet aux lois. Ce sont bien elles qui sont chargées d'exécuter les lois. Il accorde une importance particulière à l'organisation des fonctions exécutives, et partant à celle de la fonction publique. Le recrutement, les promotions et la discipline doivent relever de méthodes formelles et précises, quasi objectives, dit-il, et le travail doit être rémunéré par un salaire. et le principe de publicité constituent les principes d'administration grâce auxquels l'identification des intérêts est effectuée. La maximisation de l'aptitude officielle qui est liée au professionnalisme des agents, d'agents exclusivement dévoués au service public, et la minimisation de la dépense publique ne peuvent toutefois être effectives qu'en appliquant la maxime « no benefit without burden », ce qui implique évidemment de mettre fin aux sinécures dont bénéficient les aristocrates, mais qui conduit également Bentham à proposer un système assez extravagant. C'est extravagant dans sa propre logique d'ailleurs, qui est le suivant. Pour pouvoir un emploi, le ministre devrait faire son choix parmi les différents candidats qui se sont engagés à verser une caution inférieure, égale ou supérieure à la rémunération qui leur sera allouée. Caution qu'ils perdront s'ils ne remplissent pas bien les devoirs de leur charge. En réalité, ce système des plus étranges, et qui évidemment a donné lieu à beaucoup de commentaires, notamment des commentateurs modernes qui se sont intéressés à Bentham, ce procédé revient en réalité à instaurer un système de vénalité des emplois déguisé d'une certaine manière. Mais ce qui est important et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que la révocation des fonctionnaires dont le travail est insuffisant constitue quant à elle une sanction de nature à les responsabiliser. Ce point, évidemment, est un point crucial. En effet, il faut examiner ce que entend, d'une certaine manière, ce que nous entendons aujourd'hui, par, à travers la formule, une administration efficace et responsable. Le principe de responsabilité, d'une certaine manière est mieux rendu par le terme anglais accountability, qui d'ailleurs vient du français, qui signifie, comme l'a précisé l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui signifie donc que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ce principe est un principe fondamental. Pour Bentham, tous ceux qui exercent un pouvoir subordonné, et je devrais dire, ce n'est pas le propos qui est le mien aujourd'hui ici, car sa notion de responsabilité s'étend à l'ensemble de la chaîne et elle va jusqu'au gouvernant, mais ceci est une autre question. Pour lui donc, tous ceux qui exercent un pouvoir subordonné sont soumis à une responsabilité morale. La publicité, ou ce qu'il appelle le tribunal de l'opinion publique, permet de surveiller l'action des gouvernants et de prévenir l'abus de confiance dont ils pourraient se rendre coupables à l'égard de leurs membres. Toutefois, l'identification des intérêts ne peut se faire que par l'application de récompenses et de peines légales, ce qui se traduit dans la description benthamienne de la bureaucratie, en particulier par le fait que les fonctionnaires ne sont pas amovibles et qu'ils peuvent être révoqués ou punis à la demande d'une proportion déterminée d'électeurs. pas de revenir ici sur les initiatives de Madame Thatcher, mais de noter que le principe value for money, au nom duquel elle a lancé ses réformes dès le début des années 80, relève bien de l'utilitarisme. Le calcul du coût avantage est l'une des déclinaisons du couple peine-plaisir ou sanction de compte. Et la mesure de chacun de ces termes ou avantages implique un contrôle permanent soit exercé sur les agents, sur leurs actions, traduites en résultats étalonnés par des indicateurs, et que la traçabilité de la chaîne hiérarchique de responsabilité soit assurée afin de vérifier la congruence des performances avec les objectifs qui ont été prédéfinis. Les prescriptions de la Financial Management Initiative, lancée au Royaume-Uni en 1982 et applicable à tous les ministères, auraient pu être inventées par Bentham. Toutefois, il est rapidement apparu que cette FMI, comme on l'appelle, en réduction, ne pouvait pas fournir des informations quantitatives suffisamment homogènes pour qu'elles soient comparables. Et de part, elle ne permettait pas non plus de mettre les politiciens et leurs conseillers en mesure de prendre des décisions, comme par exemple choisir entre allouer des ressources à la sécurité sociale plutôt qu'aux services sociaux. Autrement dit, la masse d'informations descriptives et quantifiées dont les décideurs étaient les destinataires n'était d'aucune utilité, peut-être ne devrais-je pas utiliser le terme utilité, en tout cas n'était pas très utile, je n'en trouve pas d'autre, pour procéder à des choix de politique publique. Ce constat auquel s'ajoutent les difficultés techniques de la mise en œuvre d'un système qui était extrêmement lourd, complexe et finalement coûteux. Ces difficultés techniques, donc, ont conduit à l'abandon du système, du FMI. Mais ce constat met en évidence la nécessité de distinguer d'une part les méthodes de management qui visent à accroître les performances et donc à minimiser les coûts, et d'autre part les données, c'est-à-dire l'information qui peut servir à la prise de décision politique. Le mélange des genres, si je puis dire, n'est pas en réalité très performant. À cet égard, nous pouvons estimer que le président de la République a retenu cette leçon, la leçon de l'échec du FMI. Il a retenu cette leçon lorsqu'en 2007, il a lancé le grand chantier de la révision des politiques publiques et consécutivement de leur modernisation. En effet, le processus a débuté par un audit des missions de l'État devant répondre à cette question: que faisons-nous? Quels sont les besoins et les attentes collectives? Faut-il continuer à faire de la sorte? Qui doit le faire? Qui doit payer? Comment faire mieux et moins cher? Quel doit être le scénario de la transformation? À la suite de quoi, le Conseil de modernisation des politiques publiques a arrêté lors de trois réunions les 374 mesures devant être mises en œuvre d'ici 2012. L'objectif est de restructurer l'organisation de l'État. De ses structures administratives. De réduire le nombre des agents dans le but affiché de faire des économies. En fait, privilégie la responsabilisation. Elle impose que les structures administratives soient réorganisées pour mettre en œuvre les politiques publiques, c'est-à-dire pour utiliser le langage de la LOLF, les missions elles-mêmes déclinées en programme et en action. La révision générale des politiques publiques consiste finalement, pour l'essentiel, à réorganiser l'appareil d'État en vue de l'adapter aux exigences résultant de la LOLF, à renforcer l'efficacité de son action et à en réduire le coût. Mais la mesure de ces effets concrets ne pourra pas être prise avant quelques années. En son temps, Bentham avait déjà attaché une très grande importance à la rationalité des structures ministérielles et à leur mission, qu'il avait décrite avec un luxe de détail. Toutefois, le principe sanction-récompense ne trouve sa pleine application qu'à l'égard des agents, ce qu'attestent les réformes actuelles que concernent l'administration publique au sens du, par exemple, l'université ou l'hôpital. En effet, le slogan, qui d'ailleurs depuis a été lancé, a été réduit, le slogan « Travailler plus pour gagner plus », finalement, semble-t-il, n'est plus que « Travailler plus », est loin de se limiter, en tant qu'il concerne les fonctionnaires, à la possibilité très éventuelle de faire des heures complémentaires. Dans le cadre de l'application de la LOLF, la performance a été introduite dans le budget de l'État, en vue de rendre plus efficace l'allocation des ressources et dans le but de dépenser mieux. C'est pourquoi les objectifs de chaque politique publique, dont la réalisation est mesurée par des indicateurs, sont mis en regard des crédits alloués. La responsabilité managériale se mesurera essentiellement par rapport aux cibles de résultats atteints par chaque niveau de la chaîne hiérarchique en charge de programme et d'action elle-même déclinée en diverses opérations. Selon les auteurs du rapport du Conseil d'analyse économique, rapport qui a été publié à la documentation française en 2007, donc, qui a été fait par Christian Boissieu, Jean-Hervé Lorenzi et Julien Sanson, le nouveau système de responsabilité aura des conséquences positives qui vont toucher essentiellement aux carrières et à la rémunération. Le nouveau cadre de gestion publique donne une base plus objective à l'évaluation individuelle et elle permet d'objectifs et d'indicateurs de mesure devraient permettre de mener des entretiens centrés sur des critères professionnels bien définis, etc. etc. Je ne rentre pas dans ces détails. Ce dont nous devons nous souvenir, ce qui est important, c'est que ceux qui n'auront pas atteint les résultats attendus en subiront les effets négatifs en termes de rémunération et de carrière. En dépit des difficultés techniques de l'évaluation des performances, le système postule, et ça c'est un problème sur lequel on peut discuter, le système postule que les agents sont des acteurs rationnels et qu'en conséquence, ils agiront de manière à maximiser leurs gains dans le cadre de la rémunération, au mérite, ou plus précisément à la performance, et qu'ils auront évidemment tendance, qu'ils agiront de façon à agir, à maximiser pardon, les avantages potentiels qu'ils tireront de l'application, de l'accomplissement des objectifs qui leur sont assignés. Bien qu'adossé au principe value for money, la LOLF, en tant qu'outil, peut servir des fins politiques très diverses. En effet, sont justifiées rhétoriquement par la contrainte budgétaire, la condamnation de la gabegie représentée par un nombre excessif de fonctionnaires corrélée à l'insuffisante efficacité de l'action publique. Ces choix traduisent une conception du rôle de l'État inspirée par ce qui est connu d'après à tort ou à raison, le néolibéralisme, et une préférence marquée pour les différentes formes de privatisation auxquelles le service public, les agents publics et la gestion publique pourraient être soumis, et qui correspond évidemment à une externalisation des coûts dans bien des cas. Dans cette conjoncture, la LOLF, en raison des principes sous-tendant son dispositif qui implique de raisonner en termes de mission et non plus de ministère, et par ailleurs, en raison de l'importance qu'elle accorde à la mesure des résultats qui attesteraient sa scientificité, constitue bien un instrument de gouvernement. La modernisation des politiques publiques, en tant qu'elle consiste essentiellement à reformater l'organisation structurelle de l'appareil d'État pour assurer sa congruence avec la présentation de la loi de finances, confère de facto à la LOLF un statut d'instrument, instrumentalisé à son tour par les acteurs politiques qui prennent appui sur elle pour justifier leur choix de politique publique, en l'occurrence essentiellement régulièrement des fonctionnaires, des juges, des militaires, que sais-je. À n'en pas douter, et j'en terminerai, à la conception de l'intérêt général, héritée de la révolution de 1789 et du jus naturalisme, que Bentham récusait, au même titre que les autres fictions juridiques, cette conception donc la nôtre, et qui était au fondement de la légitimité de l'action publique, à cette conception est désormais substituée celle qu'articule l'identification artificielle des intérêts. La question se pose toutefois de savoir si l'utilisation dogmatique